Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygiène. Ne cherchez pas, Apple ne vend plus d'iPhone reconditionné en France depuis quelques années. Mais peut-être qu'ils reviendront. En Belgique et en Suisse, ces smartphones ont fait leur apparition dans le refurb. On en parle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, Félix va revenir sur les déboires d'Apple autour de l'intelligence artificielle. Pour le meilleur comme pour le pire, le monde entier accélère vers l'IA, mais Apple donne l'impression de regarder passer les trains. On va essayer d'y voir plus clair tout à l'heure. Nous sommes le lundi 20 mars, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Apple va-t-elle de nouveau vendre des iPhones sur sa boutique de reconditionnés en France? Eh, on peut toujours rêver. En tout cas, nos amis belges et suisses peuvent désormais acheter des iPhone 12 et des iPhone 13 avec une bonne réduction sur leurs refourbes respectifs. En Belgique, on peut par exemple trouver un iPhone 12 à 689€. C'est tout de même 120€ de moins que le prix du neuf. Pour un iPhone 13, comptez 769€, soit 140€ de moins par rapport au neuf vendu par Apple. Alors c'est sûr, il est possible de trouver des iPhones reconditionnés moins chers ailleurs, mais c'est vrai que chez Apple, on achète aussi la tranquillité de l'esprit. Les smartphones du refurb officiel sont toujours en très très bon état. Et pour la France alors, eh bien, on n'a plus de nouvelles des iPhones reconditionnés depuis 2021. Il faut aller chez les spécialistes du genre, comme chez Smart, ou sur des places de marché comme Back Market. Mais peut-être que ce lancement en Belgique et en Suisse donnera des idées à Apple France. Attention, ceci est une révolution, ou peut-être pas. C'est difficile aujourd'hui d'être véritablement surpris par l'iPhone. Apple raffine le design tous les ans en ajoutant ou en enlevant un petit truc. Parfois, les changements sont un peu plus importants, mais au bout du compte, un iPhone, bah, c'est toujours une plaque de verre et de métal rectangulaire. C'est pourquoi on a un peu de mal, enfin moi en tout cas, à feindre l'enthousiasme avec la dernière rumeur en date. Il paraît, tenez-vous bien, que les bordures autour de l'écran de l'iPhone 15 Pro Max pourraient bien battre un record de finesse. Sortez le champagne ! Bon, évidemment, l'exploit technologique est là, puisque les bordures devraient mesurer 1,55 mm, à comparer avec les énormes 2 mm de l'iPhone 14 Pro. Apple grignote petit à petit l'espace des bordures, et pourquoi pas, mais au bout d'un moment, bah, on peut aussi se demander à quoi bon. On s'est un peu moqué la semaine dernière du lancement de l'iPhone 14 jaune. Bon ok, je me suis moqué de ce nouveau modèle, entre guillemets, mais bon, avouez que du jaune, bon... Bref. Quoi qu'il en soit, cet iPhone 14 couleur canari a été l'occasion d'un sondage sur MacG, on vous demandait si vous changiez de couleur quand vous achetiez un nouvel iPhone. Apple propose un choix assez large, il y a par exemple 6 coloris pour les iPhone 14 et 14 Plus, et 4 pour les modèles Pro. Vous êtes 46% à avoir répondu que vous changiez parfois de couleur à l'achat d'un nouveau smartphone, et 20% à dire que vous changiez à chaque fois. Alors bravo à tous pour ce courage, pour ce qui me concerne c'est gris sidéral ou c'est rien du tout. Le sondage est toujours en ligne, vous pouvez voter et dire le fond de votre pensée dans les commentaires. Sauvegardez vos données, bien sûr, vous savez que c'est important, mais est-ce que vous le faites vraiment? C'est vrai que c'est parfois compliqué, on ne sait pas trop comment faire, ni avec quelle application. Pas de panique, Anthony a prévu le coup dans son tout nouveau bouquin baptisé sobrement « Sauvegardez vos données ». Plutôt que de faire une bête liste de tous les logiciels de sauvegarde disponibles, ce bouquin revient sur les outils les plus robustes et les plus simples à utiliser. Évidemment, il est question de Time Machine, mais aussi des clones et des instantanés, sans oublier la sauvegarde dans le nuage. Anthony propose aussi un topo sur les subtilités de fonctionnement de macOS et d'iOS pour les sauvegardes. Bref, c'est un bouquin indispensable à mettre entre toutes les mains. Pour vous le procurer, rien de plus simple, il suffit de se rendre dans la boutique du Club Hygiène. Il coûte 3,99€ et profitez-en puisque c'est un prix de lancement. Je vous ai mis aussi le lien direct vers le livre dans la description de cet épisode. Ces derniers jours ont été pas mal riches en actualité pour l'intelligence artificielle et pour GPT, le modèle de langage d'OpenAI, qui continue de s'imposer un peu partout. Mais il y a un petit village d'irréductibles qui résiste encore et toujours, il est à Cupertino en Californie. Avec Félix, on va faire le point aujourd'hui sur Apple et l'intelligence artificielle, parce que ça donne toujours l'air de coincer. Salut Félix.
Salut Mickaël, salut tout le monde.
Alors, j'ai envie de te demander, de but en blanc, est-ce que Apple a un problème avec l'intelligence artificielle ?
Bah, ça dépend de quel angle tu prends la question, parce que d'un côté ils ont plein de services, d'apps et de fonctions qui tournent grâce à l'IA sur Mac et iOS, au hasard t'as la fonction dans Photo qui te remonte différents souvenirs, ça fonctionne plutôt bien par exemple. Dans la même app t'as tout ce qui est analyse des photos et identification des sujets, ça tourne grâce à l'IA. Donc sur iPhone l'intelligence artificielle elle est aussi beaucoup utilisée pour la caméra, vu que prendre une photo ça demande pas mal d'algorithmes qui travaillent sous le capot. Et d'un autre côté, t'as le moteur de recherche de photos ou de l'App Store qui sont vraiment pas terribles, ou encore Siri qui répond à côté de la plaque. Ouais. Au niveau des IA, comme on en voit arriver depuis quelques temps avec la grosse hype, genre ChatGPT, à ce niveau-là, ils sont à la ramasse. Ces IA, c'est un peu différent, c'est des IA, enfin des intelligences artificielles génératives, c'est-à-dire qu'elles peuvent créer du contenu à partir de leur base de données. À ce niveau-là, ils n'ont rien annoncé, et le seul service qu'Apple a d'un peu similaire, c'est Siri, et clairement, il n'est pas aussi malin que les autres, quoi.
Depuis le lancement de ChatGPT l'an dernier, on a vu une course à l'armement entre Google d'un côté et Microsoft de l'autre, qui a des billes dans OpenAI, donc c'est le créateur de ChatGPT. La bataille se place sur le terrain des moteurs de recherche. Apple n'a pas de moteur de recherche à proprement parler, mais tout de même, tout ça, ça concerne Apple.
Ouais, Apple, ils ont pas de moteur de recherche web, mais ils ont quand même Spotlight. C'est un moteur de recherche, du coup, qui est interne aux OS. Siri, il fait aussi office de point de saisie pour d'éventuelles découvertes, mais les résultats sont vraiment pas au niveau. Moi, personnellement, j'avais pris pour habitude de laisser Siri désactiver sur mes appareils, et je l'ai réactivé il y a pas longtemps pour le minuteur sur l'Apple Watch. Donc, je pense que je suis pas le seul à quasiment avoir fait une croix dessus, quoi. Enfin, tout ça pour dire qu'Apple, ils sont aussi concernés par cette guerre entre Google et Microsoft. Vu à la vitesse à laquelle Microsoft, ils ont décidé d'incorporer tout ça et de s'investir sur le sujet, Apple, ils vont pas pouvoir se contenter de regarder le train passer et de proposer un Siri qui est archaïque. Il y a d'autres acteurs qui sont intéressés aussi. Les rumeurs voudraient qu'Amazon soit en train de faire des tests pour une version d'Alexa qui soit boostée à l'intelligence artificielle.
Alors justement, on va parler des assistants et on va parler de Siri. Une rumeur nous a appris que chez Apple, on testait des modèles de langage comme GPT, mais que c'était très compliqué d'intégrer ça dans Siri.
Ouais, c'est ça. C'est un article du New York Times qui a révélé qu'Apple plancherait sur des IA génératives, mais on n'a pas beaucoup plus de détails. Apparemment, les équipes en charge de Siri, elles auraient aussi fait quelques essais, mais ça va pas être facile d'intégrer tout ça dans l'assistant. Le problème de Siri, c'est qu'il a une architecture qui est très obsolète. Un ingénieur qui a bossé dessus, il expliquait qu'en gros, il y a une liste de questions à laquelle l'assistant peut répondre. Et si on lui demande quelque chose qui en fait pas partie, bah, il répond juste qu'il peut pas aider. Les connaissances de Siri, elles seraient compliquées à mettre à jour. Apparemment, ça serait une énorme accumulation de données disponibles en plusieurs langues. Et une modification toute bête, ça pourrait prendre plusieurs semaines. L'ingénieur, il expliquait aussi que les grosses manips, comme l'ajout d'une fonction, ça pouvait demander pas loin d'un an de boulot. Donc ça a l'air d'être un sacré bazar, et Apple va sans doute devoir faire de gros efforts pour faire le ménage.
Alors qu'Apple prend son temps pour bousculer son petit train-train, ça avance à toute allure, comme tu disais, puisque OpenAI a présenté la semaine dernière GPT-4, la dernière version très puissante de son modèle de langage.
Oui, c'est ça. GPT-4, c'est une version encore plus avancée du modèle qu'utilisait jusqu'à présent ChatGPT. Donc il devrait moins se planter sur certains sujets et raisonner d'une manière un peu plus crédible. La grosse nouveauté, c'est qu'il peut comprendre les images. Par exemple, si tu lui envoies un mème ou une blague, il pourra te le décrire et t'expliquer pourquoi c'est marrant. Le nouveau Bing, il fonctionne d'ailleurs avec GPT-4, mais Microsoft a gardé le secret jusqu'à là.
On a aussi eu une bonne nouvelle. GPT-4 ne va pas se transformer en Skynet et ne va pas non plus asservir l'humanité.
Alors GPT-4 non, GPT-20 on ne sait pas. Parce qu'en fait, en publiant le nouveau modèle de OpenAI, ils ont aussi présenté des documents de sécurité. Ils ont expliqué un peu comment ils avaient fait pour mettre tout ça sur pied. On y apprend qu'ils ont vérifié si l'IA pouvait pas dérailler et devenir dangereuse. Donc ils ont testé si elle pouvait par exemple élaborer des plans sur le long terme ou créer des copies d'elle-même ou encore se cacher sur des serveurs pour mener des attaques. Bon, heureusement, il n'y a rien de tout ça, mais l'IA n'est pas assez évoluée. Mais il y a quand même des petits détails marrants. Par contre, ils ont mené un test en la mettant dans le nuage, avec un peu d'argent, la possibilité de se cloner et d'exécuter du code. L'IA, elle a quand même réussi à aller embaucher un mec sur une plateforme pour lui faire résoudre un captcha. Donc elle a réussi à comprendre qu'elle ne devait pas lui révéler que c'était une IA, pour pas que la personne refuse, et elle a prétexté que c'était un problème de vue. Et ça a marché, donc ça fait sourire, mais ça reste un peu inquiétant quand même.
Ouais, tout à fait, ouais. Eh bien, merci, on respire, peut-être pas pour très longtemps. Je vous rappelle que vous écoutez un podcast réalisé entièrement par des humains, enfin, je sais pas trop pour Félix, mais pour moi, oui, à peu près. Salut à toi.
Salut, ciao.
Et merci de nous avoir suivis ce matin. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.